de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans son roman Le Feu, il n'y a pas d'attaque contre les Allemands, mais une attaque constante contre le militarisme allemand. Henri Barbusse y exprimait les aspirations et les tendances des cadets qui voulaient tuer la guerre dans le ventre de l'Allemagne. Deux écrivains étaient au menu de l'émission d'Hubert Join, Relecture, début 1976. Henri Barbusse donc, puis Marcel Martinet pour Les Temps maudits et aussi pour ses rapports avec Romain Rolland et son pacifisme. Relecture, Henri Barbusse, Marcel Martinet, première diffusion sur France Culture le 7 janvier 1976.
Relecture. Une émission d'Hubert Join, réalisée par Anne Lemaître. Henri Barbusse, Marcel Martinet. Avec la participation d'Henri Mitran, Pierre Paraff, Nicole Racine, André Wurmser. Et les voix d'Henri Barbusse, Emmanuel Berle, Roland d'Orgelès.
Relecture, aujourd'hui, sera en grande partie consacrée à Henri Barbusse. Pourquoi Henri Barbusse? Tout simplement parce que nous nous trouvons au point médian, pourrais-je dire, de deux anniversaires. Henri Barbusse, en effet, est mort en août 1935, à Moscou, il y a donc 40 ans. Et en 1916, paraissait, en revue puis en volume, son maître livre, Le Feu. C'est-à-dire que, là encore, nous côtoyons, ou nous annonçons, un anniversaire important. Je signale que, pour ceux que Henri Barbusse intéresse, ou je l'espère à la suite de cette émission, va intéresser, qu'il existe dans des collections au format de poche deux œuvres de Henri Barbusse. D'une part, L'Enfer au livre de poche, d'autre part, Le Feu aux éditions J'ai lu. Enfin, on trouve très facilement le numéro spécial de la revue Europe, qui comprend les actes du colloque international qui s'est tenu au Palais du Luxembourg, qui était bien sûr consacré à Henri Barbusse, les 18 et 19 mai 1973, à l'occasion, à ce moment-là, du centenaire de l'auteur du Feu. J'ai réuni, pour parler d'abord d'Henri Barbusse, Pierre Paraff, qui l'a bien connu, qui est en quelque sorte un peu son exécuteur testamentaire, en tout cas celui qui s'acharne à maintenir vivante la présence d'Henri Barbusse. À ses côtés, notre ami André Wurmser, qui, bien entendu, sur cette trajectoire d'Henri Barbusse, sur cet impact Henri Barbusse dans les lettres et dans la pensée politique française, a évidemment son témoignage apporté. Enfin, sur le plan de la valeur littéraire d'Henri Barbusse, de la modernité de Barbusse, de la nouveauté de Barbusse, Henri Mitran nous dira son sentiment. D'abord, Pierre Paraff, voudriez-vous évoquer pour nous l'ami, plutôt même que l'homme?
J'évoquerai, si vous le permettez, le jour où j'ai eu la révélation, l'illumination d'Henri Barbusse à travers son œuvre, ce feu qui paraissait en feuilletant dans le quotidien L'Œuvre. Je me trouvais dans un hôpital des tranchées, et c'était un matin tout à fait dans une petite ville calme, cuillette, qui contrastait avec ce tumulte que nous avions quitté. Les sœurs de charité circulaient à travers les lits blancs des blessés et des malades. Et puis, avec le café au lait du matin, on nous passait les journaux, et parmi ces journaux, justement, l'œuvre. Et au rez-de-chaussée de l'œuvre, ce feuilleton du feu, qui m'a paru quelque chose vraiment d'illuminant, d'extraordinaire, de miraculeux. C'était les lignes de l'homme qui savait, qui osait dire la vérité, qui décrivait exactement ce que je venais de quitter quelques semaines auparavant.
La dent du midi, l'aiguille verte et le mont blanc font face aux figures exsangues émergeant des couvertures alignées sur la galerie du sanatorium. Au premier étage de l'hôpital Palais, cette terrasse à balcon de bois découpé que garantit une véranda est isolée dans l'espace et surplombe le monde. Les couvertures de laine fine, rouge, verte, havane ou blanche, d'où sortent des visages affinés aux yeux rayonnants, sont tranquilles. Le silence règne sur les chaises longues. Quelqu'un a toussé. Puis on n'entend plus que de loin en loin le bruit des pages d'un livre tourné à intervalles réguliers, ou le murmure d'une demande et d'une réponse discrète de voisin à voisin, ou parfois, sur la balustrade, le tumulte d'éventail d'une corneille hardie échappée aux bandes qui font dans l'immensité transparente des chapelets de perles noires. Le silence est la loi. Au reste, ceux qui, riches, indépendants, sont venus ici de tous les points de la terre frappés du même malheur, ont perdu l'habitude de parler. Ils sont repliés sur eux-mêmes et pensent à leur vie et à leur mort. Une servante paraît sur la galerie. Elle marche doucement et est habillée de blanc. Elle apporte des journaux, les distribue. « C'est chose faite, » dit celui qui a déployé le premier son journal. « La guerre est déclarée. » Si attendue qu'elle soit, la nouvelle cause une sorte d'éblouissement, car les assistants en sentent les proportions démesurées. Ces hommes intelligents et instruits, approfondis par la souffrance et la réflexion, détachés des choses et presque de la vie, aussi éloignés du reste du genre humain que s'ils étaient déjà la postérité, regardent au loin devant eux vers le pays incompréhensible des vivants et des fous. C'est un crime que commet l'Autriche, dit l'Autrichien. Il faut que la France soit victorieuse, dit l'Anglais. J'espère que l'Allemagne sera vaincue, dit l'Allemand. Il se réinstalle sous les couvertures, sur l'oreiller, en face des sommets et du ciel. Mais, malgré la pureté de l'espace, le silence est plein de la révélation qui vient d'être apportée. La guerre. Quelques-uns de ceux qui sont couchés là rompent le silence et répètent à mi-voix ces mots et réfléchissent que c'est le plus grand événement des temps modernes et peut-être de tous les temps. Et même, cette annonciation crée sur le paysage limpide qu'ils fixent comme un confus et ténébreux mirage. Les étendues calmes du vallon ornées de villages roses comme des roses et de pâturages veloutés, les taches magnifiques des montagnes, la dentelle noire des sapins et la dentelle blanche des neiges éternelles, se peuplent d'un remuement humain. Des multitudes fourmillent par masses distinctes. Sur des champs, des assauts, vague par vague, se propagent, puis s'immobilisent. Des maisons sont éventrées comme des hommes, et des villes comme des maisons des villages apparaissent en blancheur émiettée, comme s'ils étaient tombés du ciel sur la terre, des chargements de morts et des blessés épouvantables changent la forme des plaines. On voit chaque nation, dont le bord est rongé de massacres, qui s'arrache sans cesse du cœur de nouveaux soldats pleins de force et pleins de sang. On suit des yeux ces affluents vivants d'un fleuve de mort. Au nord, au sud, à l'ouest, ce sont des batailles, de tous côtés, dans la distance. On peut se tourner dans un sens ou l'autre de l'étendue, il n'y en a pas un seul au bout duquel la guerre ne soit pas. Un des voyants pâles, se soulevant sur son coude, énumère et dénombre les belligérants actuels et futurs. 30 millions de soldats. Un autre balbutie, les yeux pleins de tuerie. Deux armées aux prises. C'est une grande armée qui se suicide. On n'aurait pas dû, dit la voix profonde et caverneuse du premier de la rangée. Mais un autre dit, c'est la Révolution française qui recommence. Gare au trône, annonce le murmure d'un autre. Le troisième ajoute, c'est peut-être la guerre suprême. Il y a un silence. Puis quelques fronts encore blanchis par la fade tragédie de la nuit où transpire l'insomnie se secouent. Arrêtez les guerres. Est-ce possible? Arrêtez les guerres. La plaie du monde est inguérissable. Mais quand le soir se prépare à venir dans la vallée, un orage éclate sur le massif du Mont-Blanc. Il est défendu de sortir par ce soir dangereux où l'on sent parvenir jusque sous la vaste véranda, jusqu'au port où ils sont réfugiés, les dernières ondes du vent. Ces grands blessés, que creuse une plaie intérieure, embrassent des yeux ce bouleversement des éléments. Ils regardent sur la montagne éclater les coups de tonnerre qui soulèvent les nuages horizontaux comme une mer, et dont chacun jette à la fois dans le crépuscule une colonne de feu et une colonne de nuée, et bouge leur face blême aux joues écorchées pour suivre les aigles qui font des cercles dans le ciel et qui regardent la terre d'en haut, à travers les cirques de brume. « Arrêtez la guerre !» disent-ils. « Arrêtez les orages !» Mais les contemplateurs placés au seuil du monde, lavés des passions départies, délivrés des notions acquises, des aveuglements, de l'emprise des traditions, éprouvent vaguement la simplicité des choses et les possibilités béantes. Celui qui est au bout de la rangée s'écrie « On voit en bas des choses qui rampent. » Oui, c'est comme des choses vivantes, des espèces de plantes, des espèces d'hommes. Voilà que, dans les lueurs sinistres de l'orage, au-dessous des nuages noirs échevelés, étirés et déployés sur la terre comme de mauvais anges, il leur semble voir s'étendre une grande plaine livide. Dans leur vision, des formes sortent de la plaine qui est faite de boue et d'eau et se cramponnent à la surface du sol, aveuglées et écrasées de fanges comme des naufragés monstrueux. Et il leur semble que ce sont des soldats. La plaine, qui ruisselle, striée de longs canaux parallèles, creusée de trous d'eau, est immense. Et ces naufragés qui cherchent à se déterrer d'elles sont une multitude. Mais les 30 millions d'esclaves, jetés les uns sur les autres par le crime et l'erreur, dans la guerre de la boue, lèvent leur face humaine où germe enfin une volonté. L'avenir est dans les mains des esclaves. Et on voit bien que le vieux monde sera changé par l'alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le nombre et la misère sont infinis.
Il me semble qu'en 1916, si comme vous, et dans les conditions que vous venez de dire, on lisait le feu, on était frappé. On devait, me semble-t-il, être frappé. Parce que ça reste encore le sentiment du lecteur d'aujourd'hui, du lecteur beaucoup plus jeune que vous. Il n'y a pas, dans le feu de Barbus, une attaque contre les Allemands.
Votre réflexion, Bergeon, est très juste. Il n'y a pas d'attaque contre les Allemands, mais il y a une attaque constante contre le militarisme allemand. Et à cet égard, Henri Barbus incarnait exactement les aspirations, les tendances de ces cadets comme moi, qui s'engageaient dans l'infanterie comme lui, et qui voulaient, comme il le disait, tuer la guerre dans le ventre de l'Allemagne, qui considérait que cette guerre était la dernière guerre, la guerre pour la démocratie, la guerre pour la paix, et qui l'amenait avec toute exaltation du patriote français pour justement finir avec cette horreur de l'humanité.
Alors, André Wurmser, prenons ce Barbus, il faut bien voir, me semble-t-il, enfin bien préciser peut-être, parce que vous savez comment est l'histoire. Elle fuit et elle a tendance à se résumer dans de grands chapitres qui perdent toute signification.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire, c'est ce qui reste de l'histoire.
Exactement. Alors, soyons un peu plus sérieux en ce qui nous concerne, si vous voulez. Et nous avons quand même à ce moment-là le patriote Barbus. Nous avons à ce moment-là également des antimilitaristes. N'est-ce pas, des antimilitaristes autrement engagés que ne l'est à ce moment-là Barbusse. Je pense, par exemple, au groupe Romain Rolland, en Suisse. Je pense aussi à la conférence de Zimmerwald, n'est-ce pas, avec déjà ses thèses internationalistes de Lénine. Et c'est là, André Wurmser, que j'aimerais que vous situiez ce Barbusse du feu. Et nous reviendrons, si vous voulez, aussi à Pierre Parave, quand même, parce que, ne laissons pas subsister ce doute, Barbusse n'a pas commencé par écrire le feu. C'était un écrivain, et c'était un écrivain qui s'adressait à la bourgeoisie.
Je crois qu'il faut parler de deux éléments essentiels. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler le phénomène Barbusse, et le second, que vous venez d'évoquer vous-même, c'est la trajectoire de Barbusse. Quand je parle du phénomène de Barbusse, voici ce que j'entends par là. Il arrive très rarement dans l'histoire, mais il arrive que l'histoire elle-même explose, que son temps explose dans une œuvre littéraire. Disons par exemple que le XVIIIe siècle finissant, pourrissant, explose dans la Liaison dangereuse de Laclos.
Exactement.
Nous dirons de même que la Révolution française naissante explose dans la Marseillaise de Rouget de Lisle. Et de la même façon, la guerre de 1914, avec ce qu'elle représentait dans l'histoire des guerres, à la fois d'horrible et de nouveau, a explosé dans le feu de Barbusse. Alors il est à remarquer que, pour ces trois auteurs, le livre qui les a rendus immortels a succédé à des livres qui, eux, ne promettaient pas un tel destin à leur auteur. Si on lit ce qu'a écrit Choderlos de Laclos avant les Liaisons dangereuses, disons entre nous que c'est fort peu de choses. La musique de Rouget de Lisle en dehors de la Marseillaise ne compte absolument pas. Et ce qu'a écrit Barbusse avant le feu, je ne dirais pas que cela ne compte pas, mais s'il n'y avait pas eu le feu, le plus probable est que ce poète décadent, ce romancier paranaturaliste n'aurait peut-être pas survécu. Et c'est là que nous touchons à la trajectoire de Barbusse. Barbusse, à ses débuts, est admiré par Catulle Mendès et par Anatole France en tant que poète décadent, les asphodèles de la décadence, disons, et que romancier dont l'œuvre la plus importante peut être l'Enfer, qui ne manque pas d'ingéniosité ni de talent.
On l'a rapproché de la nausée.
Oui, oui, sans doute, sans doute. Mais enfin, il n'y a aucune comparaison avec le feu. Et, comme vous le disiez très bien l'un et l'autre, Barbusse n'est pas parti d'un autre point de vue, en 1914, que la majorité, que la quasi-unanimité des Français, socialistes compris.
C'est l'union sacrée.
C'est l'union sacrée, c'est l'union sacrée en France comme en Allemagne, et l'on va faire la guerre à la guerre. On va faire, comme le disait très bien Pierre Parap, la der des der.
Il y a quand même, en 1916, une littérature, disons, cocoricotante.
Mais il n'y a qu'elle.
Et on ne peut pas dire que Barbusse en fasse partie.
Non, mais on ne peut pas dire non plus qu'il ait pris parti contre elle.
Non, mais en fait, il se passe comme malgré lui. Parce que ce que vous dites, André Wurmser, est quelque chose de très intéressant. Enfin, vous campez un écrivain dont vous dites, je partage votre sentiment, que si nous ne connaissions de lui que Les Pleureuses, Les Suppliantes, voire L'Enfer, qui est quand même son meilleur livre, bien, oui, nous pourrions le tenir pour un de ses écrivains
Disons qu'il n'aurait pas dépassé de beaucoup Catulle Mendès,
quelque chose que j'appelle l'avant-siècle. Je sais que Pierre Parap n'est pas d'accord, mais vidons d'abord, si vous voulez, ce premier abcès. Il me semble tout d'un coup qu'Henri Barbusse est l'auteur d'un roman bouleversant qui s'appelle « Le feu ». Et si vous voulez que la rédaction de ce roman « Le feu », c'est aussi Barbusse qui est en train de se faire.
Tout à fait juste. Et qui devient porte-parole, qui devient porte-voix. Au point que Vaillant Couturier dira de lui qu'il a été la conscience des tranchées, qu'il a délivré la conscience des tranchées. Il parle, et ce n'est pas en son nom personnel, c'est réellement en son temps, et c'est pourquoi le feu marquera le tournant décisif, le tournant de la montée de Barbus.
Il se nommait lui-même le crieur, et je crois que notre ami André Wurmser a admirablement résumé la trajectoire de son œuvre, et lorsqu'il a parlé de l'explosion de la fin du siècle et du commencement des 14 premières années de ce siècle, on a dit quelquefois que le 19e expirait en 1914, et c'était partiellement vrai.
Allons, en avant. Les voix ont une drôle de résonance. Ce départ s'est passé très vite, inopinément, on dirait, comme dans un songe. Pas de sifflement dans l'air. Parmi l'énorme rumeur du canon, on distingue très bien ce silence extraordinaire des balles autour de nous. On descend sur le terrain glissant et inégal avec des gestes automatiques, en s'aidant parfois du fusil agrandi de la baïonnette. L'œil s'accroche machinalement à quelques détails de la pente, à ces terres détruites qui gisent, à ces rares piquets décharnés qui pointent à ces épaves dans des trous. C'est incroyable de se trouver debout en plein jour sur cette descente où quelques survivants se rappellent s'être coulés dans l'ombre avec tant de précautions, où les autres n'ont hasardé que des coups d'œil furtifs à travers les créneaux. Non, il n'y a pas de fusillade contre nous. La large sortie du bataillon hors de la terre a l'air de passer inaperçue. Cette trêve est pleine d'une menace grandissante. La clarté pâle nous éblouit. Le talus de tous côtés s'est couvert d'hommes qui se mettent à dévaler en même temps que nous. À droite se dessine la silhouette d'une compagnie qui gagne le ravin par le boyau 17, un ancien ouvrage allemand en ruine. Nous traversons nos fils de fer par les passages. On ne tire encore pas sur nous. Des maladroits font des faux pas et se relèvent. On se reforme de l'autre côté du réseau, puis on se met à dégringoler la pente un peu plus vite. Une accélération instinctive s'est produite dans le mouvement. Quelques balles arrivent alors entre nous. Bertrand nous crie d'économiser nos grenades, d'attendre au dernier moment. Mais le son de sa voix est emporté, brusquement, devant nous, sur toute la largeur de la descente, de sombres flammes s'élancent en frappant l'air de détonations épouvantables. En ligne, de gauche à droite, des fusants sortent du ciel, des explosifs sortent de la terre. C'est un effroyable rideau qui nous sépare du monde, nous sépare du passé et de l'avenir. On s'arrête, planté au sol, stupéfié par la nuée soudaine qui tonne de toutes parts. Puis un effort simultané soulève notre masse et la rejette en avant, très vite. On trébuche. On se retient les uns aux autres dans de grands flots de fumée. On voit, avec de stridents fracas et des cyclones de terre pulvérisés, vers le fond où nous nous précipitons pêle-mêle, s'ouvrir des cratères, ça et là, à côté les uns des autres, les uns dans les autres. Puis on ne sait plus où tombent les décharges. Des rafales se déchaînent si monstrueusement retentissantes qu'on se sent annihilé par le seul bruit de ces averses de tonnerre, de ces grandes étoiles de débris qui se forment en l'air. On voit, on sent passer près de sa tête des éclats avec leurs cris de fer rouge dans l'eau. À un coup, je lâche mon fusil tellement le souffle d'une explosion m'a brûlé les mains. Je le ramasse en chancelant et repars, tête baissée dans la tempête à lueur fauve, dans la pluie écrasante des laves, cinglée par des jets de poussière et de suie. Les stridences des éclats qui passent vous font mal aux oreilles, vous frappent sur la nuque, vous traversent les tempes, et on ne peut retenir un cri lorsqu'on les subit. On a le cœur soulevé, tordu par l'odeur soufrée. Les souffles de la mort nous poussent, nous soulèvent, nous balancent. On bondit, on ne sait pas où on marche, les yeux clignent, s'aveuglent et pleurent. Devant nous, la vue est obstruée par une avalanche fulgurante qui tient toute la place. C'est le barrage. Il faut passer dans ce tourbillon de flammes et ces horribles nuées verticales. On passe. On est passé, au hasard. J'ai vu, çà et là, des formes tournoyées s'enlever et se coucher, éclairées d'un brusque reflet d'au-delà. J'ai entrevu des faces étranges qui poussaient des espèces de cris qu'on apercevait sans les entendre dans l'anéantissement du vacarme. Un brasier, avec d'immenses et furieuses masses rouges et noires, tombait autour de moi, creusant la terre, l'ôtant de dessous mes pieds et me jetant de côté comme un jouet rebondissant. Je me rappelle avoir enjambé un cadavre qui brûlait tout noir avec une nappe de sang vermeil qui grésillait sur lui. Et je me souviens aussi que les pans de la capote qui se déplaçaient près de moi avaient pris feu et laissaient un sillon de fumée. À notre droite, tout au long du boyau 97, on avait le regard attiré et ébloui par une file d'immunisation affreuse serrée l'une contre l'autre, comme des hommes.
Si vous permettez, je voudrais tout de même rappeler en un mot ce qu'a été Barbus auparavant. Comme le dit justement Hubert Juin, il n'a pas été que l'homme du feu, pour moi il est beaucoup plus. Alors qui est-il, Henri Barbus? L'homme qui est né en mai 1873 à Asnières, mai 73, donc 2 ans après la défaite franco-prussienne, 2 ans après l'écrasement et la gloire de la Commune. Et alors cet homme perd sa maman à 3 ans, il est à l'école communale rue Navarin à Montmartre, il a une enfance parisienne, avec un père journaliste républicain, descendant des Cévenoles, descendant de ces Camisards qui avaient eu leurs ancêtres aux galères, plutôt que d'abjurer leur foi. Un homme élevé, en somme, dans cette bourgeoisie républicaine pleine d'idéalisme, essentiellement hugolienne, car il a eu à une réception de mariage la joie de voir Victor Hugo, d'être embrassé par lui. Il a été nourri autant de l'Ancien Testament que des poèmes de Victor Hugo. Il fait de brillantes études au lycée qui est devenu le lycée Jacques de Cour. Et il est primé à un concours de poésie, ce qui est assez piquant, à l'Écho de Paris, Catulle-Mendès étant le président du jury. Alors, de Catulle-Mendès, il obtient non seulement le prix, mais plus tard la fille, la plus jeune et la plus belle des filles de Catulle-Mendès, qui est devenue mon amie Lyonne Barbus. Il publie Les Pleureuses, et puis alors voilà donc le destin de Barbus. Il est à la fois journaliste, il est également un peu fonctionnaire, car le beau-père Catulle-Mendès entend que sa fille est pour époux un homme qui est un fixe, comme on disait alors, puisque la poésie, comme on disait également, ne nourrit pas son homme. Il se trouve être au cabinet du ministre de l'Agriculture. Et alors, en 1908, il y a vraiment ce coup que je trouve un coup triomphal, et c'était d'ailleurs l'avis de ses contemporains. André Wurmser a évoqué Anatole France, il y a eu Anna de Noailles, il y a eu Metterling, qui ont dit « la présence émouvante et grandiose du génie ». Alors je me permets, moi, de m'arrêter un instant à l'Enfer. L'Enfer qui est une œuvre vraiment prodigieuse, vous la connaissez les uns et les autres. Le trou, la fente dans le plafond, avec ce petit voyageur provincial arrivant dans une pension de famille de Paris, et qui ressemble à Barbus comme un frère, et qui, à travers cette fente lumineuse, voit toute la vie se dérouler, toute la symphonie de la vie, la naissance, les amours, toutes les sortes d'amours, la mort, et alors, en arrière-plan, la misère humaine, et dans une certaine mesure, les révolutions qui se préparent. Alors, je crois que le Barbus d'avant 14 préparait tout à fait le Barbus de 14, avec une générosité qui s'exprimait d'ailleurs dans un certain nombre de ses engagements. Il était secrétaire de rédaction de La Paix par le Droit, il militait pour la conférence de La Haye.
Je pense là, Pierre Parave, que vous avez parfaitement raison. Il est vrai que quand je disais que le feu a créé Barbus autant que Barbus a créé le feu, il est évident quand même qu'il y avait
bien matière première
chez Barbus cette ouverture, bien sûr. Mais enfin, revenons, si vous voulez, parce que je voudrais quand même demander alors à Wurmser, de façon à ce que nous puissions quand même aller vers l'image de Barbus que nous conservons, et qui est évidemment l'image que Barbus a faite de lui-même après le feu. Et après 1918. Or, 1916, publication du feu. 1917, révolution soviétique, révolution bolchévique, et aussi des régiments insurgés.
Vous permettez une précision à ce propos. Et 1917, fondation de l'Association républicaine des anciens combattants.
Exactement.
Par Barbus.
Voilà le contexte. Et c'est à partir de ce tremplin, je veux dire, que Barbus va devenir ce que des participants des actes du colloque publié par Europe disaient être la conscience. La conscience de la gauche. Et c'est évidemment sur celui-là que j'aimerais qu'André Wurmser s'exprime. Parce qu'en fait, il y a clarté. Il y a monte, il y a l'humanité. Il y a assez vite les rapports très importants, me semble-t-il, avec des intellectuels allemands, Kurt Tucholsky, Heinrich Mann, surtout, n'est-ce
Heinrich
pas
Mann surtout.
Heinrich Mann,
Einstein.
Zweig, Einstein.
Latzko.
Il y a également la querelle, très importante, très significative, me semble-t-il, avec Romain Rolland.
Voilà. Quand Barbus s'engage, il va combattre la guerre parce qu'il est profondément pacifiste. Mais il est pacifiste comme on pouvait l'être, bon, disons-le grossièrement, avant Lénine.
C'est cela.
Avant les thèses de Lénine. Il était patriote et pacifiste, il était anti-empire allemand et non pas anti-Bosch. Bon, mais tout cela représentait un sentiment et non pas une doctrine, et non pas une pensée. Et en écrivant Le Feu, Barbus est par le feu fait Barbus.
Oui.
Je crois que c'est ainsi qu'il y a une action et une réaction, une action de Barbus créant le feu au nom de ses camarades de tranchée, au nom des morts et au nom des martyrs, et réciproquement, ce feu, à l'écrire, Barbus devient un homme aussi éloigné, beaucoup plus éloigné des pleureuses que du Barbus des dernières années. Mais à partir du feu, Barbus va progresser, non pas seulement sur le plan littéraire, ce qui est vrai, mais surtout sur le plan de la conscience. Il sera l'homme qui un jour dira que la révolution, c'est l'ordre.
Oui.
Il est le créateur, l'un des fondateurs de l'Association républicaine des anciens combattants, il est l'un des fondateurs du mouvement d'Amsterdam Pleyel, il est l'un des fondateurs de l'Association des Amis de l'Union soviétique, et à la fin de sa vie, il aboutira à ce chef-d'œuvre de critique littéraire marxiste si déplorablement tombé dans les oubliettes qu'est son Zola.
Je voudrais faire ici une parenthèse. Nous avons retrouvé un document assez drôle à propos d'Henri Barbus dans des conversations qu'Emmanuel Berle a eues à Radio France. Et il raconte comment lui, qui a collaboré à l'entreprise de Barbus Monde, était aussi emmené par Barbus dans une entreprise de conférenciers. Or, Barbus était à ce moment-là un militant du Parti communiste, et nous avons eu l'occasion de le dire, un militant extrêmement sérieux, extrêmement orthodoxe. Et Emmanuel Berle s'est en cette circonstance un peu trouvé coincé entre l'arbre et l'écorce, et il le dit d'une façon assez amusante.
J'ai fait avec Barbus une série de conférences. Bien entendu, tout le monde venait pour lui et personne ne savait qui j'étais. Et puis au dernier moment, le secrétaire de la section du Parti communiste local venait le prier de ne pas parler. Alors, comme il était tout de même un militant assez discipliné, il ne parlait pas. Et moi, je me trouvais seul avec quelques milliers de personnes qui n'avaient aucune envie de m'écouter. C'était très fatigant. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Barbus, mais il était un admirable orateur, en plus de l'écrivain qu'il était. Quand on y parlait, ça se sentait passer.
Alors il y a ainsi une trajectoire de Barbus qui est, si je puis ainsi m'exprimer, une trajectoire montante. Barbus ne cessera de progresser dans la compréhension du monde qui nous a valu et surtout qui lui a valu la Première Guerre mondiale.
Et là, André Vion-Pierre, je voudrais vous faire entendre et faire entendre à nos auditeurs un document assez rare que nous avons retrouvé dans les archives de Radio France, et qui, à mon avis, doit dater de 1932 peut-être, ou 1933, et qui est une sorte d'hommage rendu par Barbus à l'Union soviétique. C'est un peu probablement vers ce temps où il écrivait, ou bien où il venait de terminer son livre sur la Russie. Il est assez étonnant d'entendre quand même cette voix.
Camarades, c'est l'État socialiste, ce ne peut être que l'État socialiste qui construit à présent les merveilles du monde. Depuis des semaines, j'ai vu dans notre patrie soviétique, qui est la moitié de l'Europe et la moitié de l'Asie, d'immenses transformations et des réalisations magnifiques. Aujourd'hui, voici devant nous l'œuvre gigantesque du Dieu Progeste qui montre, qui mesure la grandeur et la puissance de la foule qu'il a édifiée. Ici, la transformation est d'ordre continental, elle est d'ordre géographique, elle change la face de la carte du vieux monde. On est ébloui par l'énormité des choses, par l'énormité des chiffres. On se trouve en présence d'une œuvre gigantesque, d'une sorte de féerie logique et raisonnée de la terre et de l'eau, de la machine et de l'électricité. Le vieux sol de l'Ukraine, qui a été naguère si profondément bouleversé par la guerre, par le désordre de la guerre, est maintenant plus profondément remué encore par l'ordre socialiste. Salut à l'image du monde nouveau, dont le commencement s'élève ici, et que tous les ouvriers de la terre un jour bâtiront ensemble. Salut aux grandes victoires qui, grâce à vous, s'inscrivent sur le drapeau rouge de l'humanité. Salut aux ouvriers, aux techniciens, aux ingénieurs, aux brigades de choc, triomphatrices du Dnieper. Salut au Parti communiste, constructeur de l'avenir. Salut à l'Ukraine soviétique. Salut à l'Union soviétique, qui, par la force de l'évidence et par la force des choses, conquérera fatalement les 5/6 du monde.
Paraît intéressant de dire que si Barbus adhéra au Parti communiste français, ce ne fut pas en 1916.
Non, bien sûr. 1923.
Et ça aurait été fort difficile puisque le Parti communiste français est né en 1920. Mais c'est en 1923.
Dans un sentiment de chevalerie, parce que le Parti communiste était à ce moment-là l'objet de poursuites très sévères, il a considéré que, étant d'accord sur l'idéologie, il devait partager les risques.
Mais il l'a dit à peu près dans les termes que vous employez, Pierre. Eh bien, il a dit, j'ai adhéré à leur doctrine, je dois partager leurs risques. C'est la citation exacte. Alors, cela me paraît important. Parce que c'est justement le témoignage de l'approfondissement constant de la conscience de Barbus. De la conscience politique de Barbus. Et personnellement, je fais peu de différence entre la conscience politique et la conscience littéraire.
Et maintenant, André Wurmser, nous avons auparavant vaguement et trop vaguement, donc nous allons y revenir, évoqué cette querelle alliance, cette chose curieuse qui se passe entre Romain Rolland et Barbus, comme si Romain Rolland, qui tenait beaucoup, c'est un mot-clé chez lui, à l'esprit, était un peu contré par l'engagement autre, plus touffu, si l'on peut dire, qui devient et qui est celui de Barbus. Pierre Parra.
Romain Rolland a été, quoique de formation catholique, très puritain d'aspect. Barbus était essentiellement romantique, débordant de sensibilité, et je crois que c'est une première différence. Deuxièmement, Romain Rolland a été très solitaire, et Barbus même, au fond de ses engagements, du communisme le plus pur, le plus intransigeant, était resté parfaitement ami avec tout, si j'ose dire, ses anciennes relations du tout Paris, qu'il aimait, qu'il admirait, et enfin, son communisme était dénué de tout sectarisme, était empreint d'un libéralisme le plus grand, et je sais que Romain Rolland, quelquefois, était un peu choqué, tout au moins étonné, par ce côté tout Paris que Henri Barbus avait gardé. Alors voilà deux différences psychologiques. Maintenant, je me permettrai de faire observer, alors tout à fait pour le début, que Romain Rolland, au mois d'août 1914, alors qu'il était au-dessus de la mêlée, exprimait tous ses voeux pour la victoire de la France et la victoire des Alliés, était indigné de l'invasion de la Belgique. Simplement, il ridiculisait, comme nous le faisions tous au fond de nos tranchées, cet horrible bourrage de crâne, cet anti-bauchisme dont André Wurmser a si bien parlé, qui n'a jamais été le nôtre.
Il faut être à l'avance persuadé que ces divergences ont beaucoup moins compté que leurs convergences.
Il est absolument...
Et déraisonnable. Dans une lutte qui oppose la paix et la guerre, qui oppose le socialisme et le capitalisme, il est déraisonnable de mettre au premier plan ce qui était le plus naturellement du monde, des lignes différentes allant dans la même direction. Début à la fin de leur action politique, entièrement d'accord, on les aurait traités de robots. Les divergences sont là ce qu'il y a de plus naturel. Mais leur convergence, par contre, apportait à la cause qu'ils défendaient en commun une preuve de son bien fondé. Ce n'est pas peu de choses que d'avoir eu à sa tête et Barbus et Romain Rolland. L'un et l'autre fondateur et seul fondateur d'Amsterdam Pleyel.
Ô martyr, ô vaillant, ô sang, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui va la place dans le temple, et qui mourront comme ils sont morts, et qui mourront comme ils sont morts.
Pierre Parraf nous a dit qu'il avait lu en 1916 au moment de la parution
Le
feuilleton
de
Barbus dans l'œuvre. Il est évident que c'était l'ouvrage, mais l'ouvrage, malgré tout, tronqué par la censure, c'est-à-dire empli de blanc. Pierre Parraf n'a pas été le seul jeune militaire d'alors à être frappé par la lecture du feu, puisque Roland d'Orgelès, qui devait plus tard s'illustrer par un livre de guerre, qui a eu un succès, lui aussi, sensationnel, était dans la même circonstance. C'est-à-dire que c'est dans l'œuvre, en 1916, qu'il a lu Le Feu, ainsi qu'il le dit dans un document que nous avons retrouvé aux archives de Radio France, et qui date de 1966.
Ça a été un soulagement pour tous les combattants, en 1916, de découvrir Le Feu. Nous le lisions par petits morceaux, quand ça paraissait dans l'œuvre, et on était étonnés pour la première fois, c'était vraiment un langage de vérité, un langage de guerre, où nous retrouvions nos propres émotions, où nous retrouvions nos alarmes, nos inquiétudes, tout y était transcrit avec une vérité de ton, d'accent surprenante. J'étais vraiment bouleversé par ce livre, mais c'est la première fois qu'on voyait la guerre sous son jour vrai, sous son jour dur, son jour brutal, sous son jour émouvant. Et j'en avais été très très ému et très marqué. Il est certain que Barbus avait montré la guerre selon son propre talent, selon son optique à lui, qui était un écrivain symboliste, c'est marqué dans son œuvre, de même que René Benjamin était marqué par son don de satiriste, n'est-ce pas, et qui voyait ça avec une gouaille, tandis que lui, Barbus, le voyait avec émotion.
Maintenant, Henri Mitran, puisque nous attendions pour parler, si vous voulez, de l'impact littéraire de Barbus, on est frappé, même aujourd'hui, lorsqu'on relit Le Feu, dans une, si vous voulez, dans une perspective de l'histoire littéraire, par la modification du langage qui se fait par et dans ce livre. On en est d'autant plus frappé, me semble-t-il, que finalement Barbus, nous avons eu l'occasion de le dire, vient d'une littérature symboliste avec les pleureuses, un peu décadente avec les suppliantes, d'un naturalisme un petit peu, comment dire, apocalyptique ou un petit peu intimiste avec l'enfer. Et soudain, dans ce livre, Le Feu, le langage lui-même bouge.
Oui, moi je crois que ça n'est pas seulement une expérience de modification du langage romanesque, pour employer un terme moderne, mais c'est tout simplement, chez un écrivain comme vous venez de le définir, le contre-coup d'une expérience sans nom et absolument inouïe, qui était l'expérience du contact avec le peuple en guerre, le peuple souffrant.
Je vous coupe une seconde, aussi, quelle guerre,
parce que quelle guerre.
Il est évident qu'aujourd'hui, nous avons eu l'expérience de la Seconde Guerre, bon, qui a été atroce, qui a été horrible, mais sous d'autres aspects, finalement. L'horreur de la Seconde Guerre n'était pas l'horreur de la Première, parce qu'il n'y a pas eu ces combats à l'arme blanche, ce piétinement intolérable de tranchée à tranchée. Et c'est puis, évidemment ça, le climat du feu.
Le boyau n'est pas défendu. Les Allemands l'ont abandonné. Ou bien une première vague est déjà passée. L'intérieur est hérissé de fusils posés le long du talus. Au fond, des cadavres éparpillés. Du fouillis de la longue fosse émergent des mains tendues hors de manches grises à parements rouges et des jambes bottées. Par place, le talus est renversé, la boiserie hachée. Tout le flanc de la tranchée crevé, submergé d'un indescriptible mélange. En d'autres endroits, baies, des puits ronds. J'ai gardé, surtout, de ce moment-là, la vision d'une tranchée bizarrement en guenilles, recouverte de loques multicolores. Pour confectionner leurs sacs de terre, les Allemands s'étaient servis de draps, de cotonnades, de lainage à dessins bariolés, pillés dans quelques magasins de tissus d'ameublement. Tout ce méli-mélo de lambeaux de couleur, déchiquetés, effilochés, pans, claquent, flottent et dansent aux yeux. On s'est répandu dans le boyau. Le lieutenant qui a sauté de l'autre côté se penche et nous appelle en criant et en faisant des signes. « Ne restons pas là! En avant! Toujours en avant !» On escalade le talus du boyau en s'aidant des sacs, des armes, des dos qui y sont entassés. Dans le fond du ravin, le sol est labouré de coups, comblé d'épaves, fourmillant de corps couchés. Les uns ont l'immobilité des choses, les autres sont agités de remuements doux ou convulsifs. Le tir de barrage continue à accumuler ses infernales décharges en arrière de nous, à l'endroit où nous l'avons franchi. Mais là où nous sommes, au pied de la butte, c'est un point mort pour l'artillerie. Vague et brève accalmie. On cesse un peu d'être sourd, on se regarde. Il y a de la fièvre aux yeux, du sang aux pommettes, les souffles ronflent et les cœurs tapent dans les poitrines. On se reconnaît confusément, à la hâte, comme si dans un cauchemar on se retrouvait un jour face à face, au fond des rivages de la mort. On se jette dans cette éclaircie d'enfer quelques paroles précipitées. « C'est toi ? Oh là là, qu'est-ce qu'on prend ? Où est Cocon ? Je sais pas. T'as vu le capitaine ? Non. Ça va ? Oui. » Le fond du ravin est traversé. L'autre versant se dresse en l'escalade à la file indienne par un escalier ébauché dans la terre. Attention ! C'est un soldat qui, arrivé à la moitié de l'escalier, frappé au rein par un éclat d'obus venu de là-bas, tombe comme un nageur décoiffé des deux bras en avant. On distingue la silhouette informe de cette masse qui plonge dans le gouffre. J'entrevois le détail de ses cheveux épars au-dessus du profil noir de sa figure.
Il n'y a pas eu, en France même en tout cas, le caractère de combat de masse, je crois, engageant toutes les forces vives d'un peuple, comme ça avait été le cas en 14-18. Et c'est de là, je crois, qu'est venu le contenu linguistique qui frappe tant les lecteurs du feu. Moi, je crois que le parti pris du feu est peut-être, par certains côtés, un parti pris philologique, c'est sûr. Un homme qui, subitement, entendant les gens du peuple parler leur langue si verte, si vigoureuse, si imagée, a découvert un autre monde linguistique que le sien et a voulu s'en faire le peintre. Et le peintre, probablement, le reporter, disons, très exact, très précis. Mais ce parti pris philologique n'aurait pas atteint la force qu'il a, et qu'il a encore, je crois, sur les lecteurs d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas en même temps un parti pris, disons, politique ou idéologique. Le feu, c'est un témoignage d'une autre sorte qu'un simple témoignage linguistique. Si Barbus a décidé, au fond, d'écrire son roman dans la langue populaire, non pas seulement de faire entendre la langue populaire parlée par les personnages, mais de réaliser une espèce de mixage entre la langue des personnages et la langue du romancier, c'est que pour lui, le débat était d'une importance fondamentale. Il s'agissait d'abord de montrer que la guerre française, et probablement allemande d'ailleurs, en 14-18, c'était une guerre qui menait au combat essentiellement les couches populaires. Les gens qui se faisaient tuer, les gens qui souffraient, c'était fondamentalement le peuple dans sa masse, et par conséquent, il fallait faire entendre le langage du peuple. Et ça, c'était un parti pris qui suffisait, je crois, à distinguer le feu de tout le reste de la littérature de guerre. En second lieu, il me semble que la part considérable du langage vulgaire, parfois ordurier, dans le feu, c'est une manière de faire pièce au lyrisme volontiers académique, ampoulé, officiel, solennel, etc., dont on servait dans les milieux de la bourgeoisie intellectuelle française de l'époque pour, comme on disait, bourrer le crâne, c'est pas des combattants. Oui, alors il y avait cette exaltation de tous les mythes de l'Union sacrée et de beaucoup d'autres mythes dans la bouche des académiciens. Dans le meilleur langage, il fallait faire pièce à cet aspect des choses.
Alors il y a, Henri Mitran, un scandale. Parce que Le Feu est un livre scandaleux.
Oui, scandaleux essentiellement, je crois, par son contenu, beaucoup plus encore que par sa langue. La langue n'étant qu'un épiphénomène du contenu violemment polémique, finalement, d'un livre de ce genre.
Oui, mais quand même, cette forme que choisit Barbus augmente ce scandale. Et est-ce que ce scandale ne se situe pas dans une notion qui a été vécue et nous avons perdu mémoire, et qui était l'avant et l'arrière, c'est-à-dire les combattants, oui, dont est Barbus? Et évidemment, cette espèce de pays, réel, hélas, mais qui est dans une irréalité, qui pousse finalement derrière et qui tout d'un coup reçoit le feu comme un camouflet.
Oui, comme un camouflet et comme l'envers de toutes les propagandes bellicistes qui, elles, s'expriment encore une fois dans le meilleur langage des journaux parisiens. Il s'agit de dire au public français, la guerre, ça n'est pas ce qu'on vous dit qu'elle est, c'est ça. Et c'est ce contenu, et c'est ce langage. Je crois que c'est là qu'a été le scandale, et c'est ce qui fait que ce livre garde sa force. Alors, il y a deux manières de l'étudier de nos jours, ou bien justement d'un point de vue sociocritique, en somme, qui consiste à essayer de retrouver les motivations profondes d'un roman comme celui-là, qui sont d'ordre lyrique probablement autant que politique, puisqu'il s'agit d'une certaine mesure de glorifier le peuple en guerre, non pas en tant que masse de combattants, mais en tant que masse souffrante et masse qui réfléchit sur les raisons de sa souffrance, que masse qui par conséquent prépare autre chose, prépare peut-être des lendemains qui dépasseront la guerre présente. Donc il y a ce parti pris à la fois lyrique, polémique et politique qui donne, je crois, sa force au texte. Et il faut, de nos jours, je crois, si on veut le rajeunir ou en tout cas le restituer, ce texte du feu, il faut l'étudier comme ça. Il y a une deuxième lecture, alors qui est la lecture linguistique et qui est très passionnante aussi pour les linguistes d'aujourd'hui, car après tout, le feu est probablement un des meilleurs témoignages qu'on ait, au strict plan, alors je dirais, sociolinguistique, sur le langage populaire tel qu'il se faisait entendre dans les années 1910-1920.
En restant sur le plan strictement de l'histoire des littératures, ou de la littérature plus exactement, et il me semble que le feu d'Henri Barbus pourrait assez bien, je crois, se situer dans ce que portait le naturalisme, c'est-à-dire, je pense aux soirées de Médan, l'antimilitarisme du Sacco d'eau de Huysmans, ou des textes de Séard, des textes de Maupassant, des textes de Zola, des textes d'Alexis, et aussi par cette espèce de change linguistique qu'il opère, annonce aussi le Bardamu de Céline.
Mais d'ailleurs, tout est lié. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce change linguistique, il a déjà été opéré par Zola avec L'Assommoir en 1877. Là aussi, vous avez un roman qui fait scandale, en particulier parce que subitement, on y entend le peuple. À l'époque, ça ne se faisait pas, non seulement de parler du peuple, sujet obscène, parler des travailleurs, des ouvriers, ça n'est pas convenable. Non seulement on ne parle pas d'eux, mais encore moins on les fait parler. On ne parle pas du sexe, on ne parle pas du peuple, et encore moins on fait entendre la langue du peuple, les manières de table, les manières de lit, les manières de parole du peuple, sujet tabou. Voilà Zola qui subitement crève l'écran et produit L'Assommoir. Même phénomène 50 ans plus tard avec Le Feu de Barbus et dans un autre entourage. Alors Le Feu entre donc probablement, si vous voulez, dans cette tradition. Une tradition qui commence avec L'Assommoir, qui se continue avec La Débâcle. Oui. Grand roman de guerre, grand roman aussi d'analyse des mécanismes profonds de la guerre de masse, de la guerre nationale, mais roman qui n'utilise guère d'ailleurs les données du langage populaire. Dans La Débâcle, Zola revient en arrière. Il garde un certain contenu démonstratif, mais il n'utilise plus les ressources du langage populaire. Pourquoi ? Probablement parce que La Débâcle est un roman documenté plus tard, 20 ans après, et il n'est pas suffisamment sûr de sa documentation linguistique pour refaire ce qu'il a fait au moment de L'Assommoir. Alors, il y a ce que vous disiez à l'instant, tout le côté alors de polémique antimilitariste, ambigu d'ailleurs, des soirées de Médan, qui va beaucoup moins loin que un texte de Zola ou un texte de Barbus. Et alors, au-delà du feu, il y aura le voyage au bout de la nuit de Céline. De sorte que ce texte du feu peut, je crois, sans trop d'erreurs, être situé effectivement sur une trajectoire qui va du Zola de L'Assommoir et de La Débâcle jusqu'au Céline du voyage au bout de la nuit. C'est un peu le même parti pris de témoignage sans phare, et c'est aussi la même expérience langagière, enfin, la même expérience de déplacement des données langagières du roman.
Il reste alors un autre problème, je voudrais que nous l'évoquions avant de terminer cette brève approche d'Henri Barbus, et c'est quand même Pierre Paraf, Jésus. C'est la quadrilogie, je crois, n'est-ce pas ?
C'est une trilogie.
Une trilogie. Et cette trilogie, enfin, Barbus semble vouloir y mettre son testament philosophique, qui plus est. Et elle s'accompagne également, cette trilogie, d'un nombre assez important, je crois, d'articles, dont une partie avait paru d'ailleurs dans l'Humanité, me semble-t-il.
Il voyait en Jésus non pas le Dieu, mais l'homme, et l'homme révolutionnaire. Il l'aimait tendrement, avec vraiment les accents d'un amour qui ont étonné des chrétiens, qui ont dit comment ce libre penseur, ce marxiste, cet athée, peut-il aimer Jésus d'amour ? Il employait ce mot d'amour, il a dit « personne ne pourra me l'enlever ». Et il m'a souvent parlé de Jésus qu'il restituait dans sa vérité juive, me disait-il. Il trouvait que même Renan, que j'admire pour moi infiniment, avait laissé sur Jésus une sorte de Roland de parfumerie, un peu de Saint-Sulpice, encore que Renan, élève de Saint-Sulpice, s'en soit bien écarté. Mais qu'il fallait reconstituer un Jésus essentiellement prophète juif et prophète révolutionnaire.
Je dirais que ce qui attirait dans la personne et la légende de Jésus le plus barbu, c'était à mon sens deux sentiments qu'il ressentait lui-même avec beaucoup d'intensité. Le premier était la fraternité humaine et le second était l'universalité. Car il faut ne pas oublier que Henri Barbus a été non seulement un grand révolutionnaire français, mais un grand internationaliste, dont l'œuvre des 10 dernières années a été consacrée à défendre des causes qui se situaient dans les Balkans, qui se situaient dans le Caucase, qui se situaient en Asie, et que Barbus avait un humanisme universel, mais qu'il pouvait lui faire penser que la première version de son propre humanisme avait été le christianisme. Je pense profondément que le caractère universaliste et fraternel du christianisme primitif a été très sensible, très proche à la pensée de Barbus.
Voulez-vous à ce moment-là que nous terminions sur une image que j'aimerais évoquer Maintenant, c'est en 1935. C'est la montée du Front populaire. Nous sommes quelques jours avant le départ d'Henri Barbusse pour l'Union soviétique, où il retourne et où il va mourir. Et dans cette journée de 1935, alors que la victoire du Front populaire est en marche, eh bien nous trouvons Barbusse, joyeux, assis à côté de Maurice Thorez, dans la même voiture.
Les potentats veulent la guerre afin d'égorger leurs troupeaux pour cimenter chaque frontière comme on consacrait les tombeaux. Mais il vient le temps d'anarchie où dans l'immense apaisement loups de France et de Sibérie loups jeûneront de sang. De vous, les damnés de la terre, ceux qu'on écrase dans les charniers humains. De vous, les forçats de misère, unissons-nous, latins, slaves germains.
Nous venons de parler assez longuement d'Henri Barbusse et, aux éditions 10-18, que dirige Christian Bourgois, vient de paraître un livre qui n'est pas d'Henri Barbusse, mais qui, me semble-t-il, doit être évoqué dans cette même édition de relecture. Il s'agit d'un ensemble de textes de Marcel Martinet, intitulé « Les temps maudits », ce sont des poèmes, suivis d'une pièce de théâtre « La nuit », préfacée, la préface est reprise dans ce livre, par Léon Trotsky. L'ensemble, lui, est préfacé assez longuement, d'une façon très précise, par Nicole Racine. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par écouter un de ses poèmes, parmi les plus célèbres, puisque ce sont des poèmes, disons-le tout de suite, antimilitaristes et anti-impérialistes, si l'on peut dire. Ce sont des poèmes extrêmement engagés. Voici d'abord ce poème.
Tu vas te battre, quittant l'atelier, le bureau, le chantier, l'usine. Quittant, paysan, la charrue soc en l'air dans le sillon, la moisson sur pied, les grappes sur les ceps, et les bœufs vers toi beuglant du fond du pré. Employé, quittant les madames, leurs gants, leurs flacons, leurs jupons, leurs insolences, leurs belles façons, quittant ton si charmant sourire. Mineur, quittant la mine où tu craches tes poumons en noire salive, verrier quittant la fournaise qui guettait tes yeux fous. Et toi, soldat, quittant la caserne, soldat, et la cour bête où l'on paresse, et la vie bête où l'on apprend à bien oublier son métier, quittant la rue des Bastringues, la cantine et les fillasses, tu vas te battre. Tu vas te battre. Tu quittes ta livrée. Tu quittes ta misère, tu quittes l'outil complice du maître, tu vas te battre. Contre ce beau fils, ton bourgeois, qui vient te voir dans ton terrier, garçon de charrue, métayer, et qui te donne des conseils en faisant à son rejeton un petit cours de charité. Contre le monsieur de la dame qui payait ton charmant sourire de vendeur à 100 francs par mois, en payant les robes soldées qu'on fabrique dans les mansardes. Contre l'actionnaire des mines et contre le patron verrier. Contre le jeune homme en smoking, né pour insulter les garçons des cabinets particuliers et se saouler avec tes filles en buvant ton vin, vigneron, dans ton verre, ouvrier verrier. Contre ceux qui, dans leur caserne, te dressèrent à protéger leur peau et leur propriété des maigres ombres de révolte que dans la mine ou l'atelier ou le chantier auraient tenté tes frères ouvriers. Pauvre, tu vas te battre. Contre les riches. Contre les maîtres, contre ceux qui mangent ta part, contre ceux qui mangent ta vie, contre les bien nourris qui mangent la part et la vie de tes fils, contre ceux qui ont des autos et des larbins et des châteaux, des autos de leur boue éclaboussant ta blouse, des châteaux qu'à travers leur grille tu admires, des larbins ricanant devant ton bourgeron. Tu vas te battre pour ton pain, pour ta pensée et pour ton cœur, pour tes petits, pour leur maman, contre ceux qui t'ont dépouillé et contre ceux qui t'ont raillé. Et contre ceux qui t'ont souillé de leur pitié, de leur injure. Pauvre courbé, pauvre déchu, pauvre insurgé. Tu vas te battre contre ceux qui t'ont fait une âme de misère, ce cœur de résigné et ce cœur de vaincu. Pauvre paysan, ouvrier, avec ceux qui t'ont fait une âme de misère, avec le riche, avec le maître, avec ceux qui t'ayant fusillé dans tes grèves, t'ont rationné ton salaire, pour ceux qui t'ont construit autour de leurs usines des temples et des assommoirs et qui ont fait pleurer devant le buffet vide ta femme et vos petits sans pain, pour que ceux qui t'ont fait une âme de misère restent seuls à vivre de toi et pour que leur grand cœur ne soit point assombri par les larmes de leur patrie, pour te bien enivrer de l'oubli de toi-même, pauvre paysan, ouvrier, avec le riche, avec le maître, contre les dépouillés, contre les asservis, contre ton frère, contre toi-même, tu vas te battre, tu vas te battre. Va donc. Dans vos congrès, vous vous serriez les mains, camarades. Un seul sang coulait dans un seul corps. Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, vous étiez là. Le peuple entier des travailleurs était là. Le vieux monde, oppresseur et barbare, sentant déjà sur soi peser vos mains unies, frémissait, entendant obscurément monter sous ses iniquités et sous ses tyrannies les voix de la justice et de la liberté. Hier, constructeurs de cités, âmes libres et fières, cœurs francs, vous étiez là, frères d'armes, debout, et confondus devant un ennemi commun, hier. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, comme hier, Berlin, Londres, Paris, Vienne, Moscou, Bruxelles, vous êtes là. Le peuple entier des travailleurs est là, il est bien là, le peuple des esclaves, le peuple des hâbleurs, des frères parjures. Ces mains que tu serrais, elles tiennent bien des fusils, des lances, des sabres. Elles manœuvrent des canons, des obusiers, des mitrailleuses, contre toi et toi. Toi aussi tu as des mitrailleuses. Toi aussi tu as un bon fusil contre ton frère. Travaille, travailleur. Fondeur du Creusot, devant toi, il y a un fondeur des Seines, tue-le. Mineur de Saxe, devant toi, il y a un mineur de Lens, tue-le. Docker du Havre, devant toi, il y a un docker de Brême, tue. Et tue, tue-le, tuez-vous, travaille, travailleur. Oh, regarde tes mains. Oh, pauvre ouvrier paysan, regarde tes lourdes mains noires. De tous tes yeux usés, rougis, regarde tes filles. Leurs joues blêmes. Regarde tes fils, leurs bras maigres. Regarde leurs cœurs avilis. Et ta vieille compagne regarde son visage, celui de vos 20 ans, et son corps misérable, et son âme flétrie. Et ceci encore. Devant toi, regarde la fosse commune, tes compagnons, tes pères et mères. Et maintenant, va te battre.
Maintenant que nous venons d'entendre Marcel Martinet, j'entends, non pas Marcel Martinet lui-même, mais le texte de Marcel Martinet, nous avons pu en mesurer la violence. Nous avons vu également à quel point, bien sûr, ce poème étant l'écho du recueil dans sa totalité, Marcel Martinet est un pacifiste, un anti-militariste, un anti-impérialiste, quelqu'un qui prend la défense du pauvre, comme il dit, de l'ouvrier, comme il dit, et qui trouve que s'il existe une guerre possible, c'est qu'il s'agit d'une guerre sociale, d'une guerre de classe.
Oui, je crois qu'il serait peut-être plus juste de dire que Marcel Martinet est un pacifiste révolutionnaire, un de ces socialistes qui, en août 14, est resté fidèle à l'idéal qui avait été celui du mouvement ouvrier avant 14, c'est-à-dire à l'idéal internationaliste et révolutionnaire pacifiste, c'est-à-dire qui pensait qu'en cas de guerre, la classe ouvrière devait répondre par le refus, la grève générale, et donc qui, dès août 14, a refusé l'union sacrée. Je crois que c'est pour vraiment bien resituer ces poèmes des temps maudits, qui ont d'ailleurs été commencés dès la fin juillet 14, donc avant même que la guerre mondiale soit déclenchée. Il faut donc se souvenir de cela, que Marcel Martinet reste fidèle à ce qu'on appelait alors l'internationalisme prolétarien.
Il faut souligner aussi que, vraiment, lorsque nous parlons maintenant d'union sacrée, il faut bien que l'auditeur sache que les socialistes étaient partis prenants, et que l'on a vu au ministère siéger à ce moment-là des gens dont on pouvait croire que vraiment leur option était différente.
C'est ça, c'est le livre d'un poète, mais aussi le livre d'un opposant. C'est-à-dire que dès août 14, Marcel Martinet se situe comme opposant au courant d'union sacrée qui a submergé aussi le mouvement socialiste.
Lui n'est pas mobilisé.
Alors, il n'est pas mobilisé parce qu'il était de santé fragile et il a été réformé. C'est la guerre, enfin disons les premiers jours de la guerre, qui font de lui un militant. Jusque-là, Marcel Martinet est un poète qui a publié un certain nombre de vers dans la tradition issue du symbolisme, des vers d'inspiration, enfin, comme on a dit, intimiste plutôt, et qui n'est pas un poète engagé. Simplement, c'est un poète qui s'est intéressé aux problèmes sociaux, qui a participé aux discussions qui, autour de Jean-Richard Bloch et de sa revue L'Effort Libre, ont voulu que la littérature et la poésie, surtout, s'intéresse aux problèmes sociaux.
Oui, il faut dire que L'Effort Libre était quand même une revue très importante, enfin, pour le mouvement prolétarien.
C'est ça, c'est une petite revue, qu'on pourrait dire maintenant d'avant-garde, qui essayait de réconcilier, disons, le peuple et la culture, comme on dirait maintenant. Et de faire entrer dans la poésie des thèmes du monde moderne et contemporain.
Et Marcel Martinet donne l'impression à ce moment-là de plonger un peu, de rejoindre un peu ce qu'on va appeler les poètes unanimistes.
C'est ça. Il a aimé les poètes unanimistes pour leur goût de la communion humaine, leur désir de renouvellement de la forme et en même temps de l'inspiration poétique, qui était une réaction contre la littérature finissante, enfin la poésie héritée de ce qu'on appelait le néo-symbolisme. Et c'était des groupes qui étaient aussi très admiratifs de gens comme Vera Ren ou Walt Whitman.
C'est ça. Oui, mais lui, me semble-t-il, avec Marcel Martinet, avec Les Temps Maudits...
Oui. Alors là, change effectivement
beaucoup.
De registre.
Il change de registre lui-même, mais aussi sa poésie devient singulièrement accusatrice.
Accusatrice, c'est ça. C'était...
Des poèmes comme, je ne sais pas, Peuple, par exemple, qui montrent que le peuple lui-même se choisit des chefs, c'est-à-dire que le peuple lui-même a trahi, vont quand même très loin quand on les compare à la production d'époque.
Peuple, c'est pourtant toi qui les as forgés des grands jours, fauves et cruels, eux aussi, souillés de boue, rouges de sang. Mais tes jours à toi, peuple esclave, qui sur ta peau tâtait la plaie de ta chaîne et de ton collier, et qui sentait la générale battre les ventres affamés de tes petits et de tes femmes, c'était toi, peuple. Et aujourd'hui, trébuchant dans ton drapeau rouge, suivant tes bons amis les riches à travers la boue et le sang, plein de haine contre toi-même, plein de mépris et plein d'injures, le pauvre se vengeant du pauvre, le frère se vengeant du frère, c'est toi qui gaiement t'entretues, ivre de meurtre, ivre d'oubli. Oui, c'était toi, peuple, la guerre. Ta foi, ta fierté, ta récolte, bah, c'est bien vieux, des mots. Mais prendre avec la foi du maître... Sa livrée et son numéro, être fier d'être des laquais de grandes maisons de vieille noblesse, des chiens dans deux meutes rivales, l'une contre l'autre acharnées, ça c'est flatteur, ça c'est nouveau. Ah, peuple, tes chefs t'ont trahi. Tu avais donc besoin des chefs? La servitude, la misère, les outrages, c'était trop peu? Oui, c'était trop peu, peuple lâche. Et à présent, la boue, le sang du fond de la chaude litière où il fait si bon oublier, à présent, vas-tu t'éveiller, peuple, peuple des anciens jours.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands. Qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut,
salut.
Brave Piu-Piu,
brave Piu-Piu.
Chacun vous admire et vous aime.
Salut, salut à vous, à votre geste magnifique.
Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Marcel Martinet a voulu, lui qui refusait la guerre et qui d'autre part ne la faisait pas, puisqu'il n'était pas mobilisé, a voulu que les temps maudits soient un acte d'accusation et une protestation violente contre la guerre. Et il a travaillé aux temps maudits pendant presque toute la guerre. Il a commencé donc ses poèmes en juillet-août 14 et il a écrit le dernier après le 11 novembre 18. Il y a travaillé comme une œuvre d'ensemble et une œuvre accusatrice.
Et qui est dédié à Romain
Rolland. Et qui est dédié à Romain Rolland, oui.
Et alors, il y a ce rapport avec Romain Rolland, parce qu'il me semble aussi, d'après votre préface du moins, que Marcel Martinet est un Zimmerwaldien, enfin, c'est-à-dire que qu'il y avait cette conférence à Zimmerwald où se trouveraient des socialistes pacifistes, c'est-à-dire des internationalistes, et qui se sont ralliés aux thèses de Lénine.
C'est ça.
En gros,
oui. C'est-à-dire que Marcel Martinet, sur le plan politique, se situe, si l'on veut, plus à gauche que Romain Rolland, qui ne voulait pas adhérer ni à un parti, ni à une idéologie révolutionnaire, car il récusait les moyens violents à ce moment-là. Il était surtout partisan de l'indépendance de l'esprit, l'esprit au-dessus de la mêlée, et il dénonçait surtout la faillite des forces de paix et des forces spirituelles, plus qu'il n'appelait à la révolution. Malgré tout, Romain Rolland a été très admiré. Il a été, la conscience de tous ces protestataires isolés, et notamment au sein du mouvement ouvrier, dans le mouvement syndicaliste et socialiste.
Et c'est ça qui, ensuite, va créer des frictions entre lui et Marcel Martinet, j'entends, au moment où Marcel Martinet va rejoindre, d'une façon très, très claire, enfin sans équivoque, le Parti communiste français après 1920, puisqu'il va même être directeur des pages littéraires de l'humanité. De l'humanité communiste,
c'est
n'est-ce
ça.
Pas
Mais Marcel Martinet n'a jamais renié l'admiration qu'il portait au Romain Rolland d'au-dessus de la mêlée. Une voix d'homme, disait-il en parlant d'au-dessus de la mêlée. Enfin, une voix d'homme s'est fait entendre pour dénoncer le massacre, pour dénoncer la folie collective. Et c'est dans cet esprit que Marcel Martinet, jeune poète de 30 ans, inconnu, a correspondu avec Romain Rolland en lui envoyant les temps maudits et en lui demandant, au fil de la correspondance et de l'amitié qui s'était nouée entre les deux hommes, d'accepter que ses poèmes lui soient dédiés.
Restons deux secondes à cette querelle qui me paraît, moi, très importante. André Wurmser et Pierre Parra, tout à l'heure, disaient, à juste titre d'ailleurs, qu'à propos de Barbus et de Romain Rolland, mais c'est la même querelle en gros, que quand même Romain Rolland, il ne fallait pas s'y tromper, était très clairement dans un camp, qui était quand même le camp aussi où se trouvaient et Barbus et Martinet. Mais cette querelle me paraît quand même, moi, très importante, parce que justement, on a affaire avec Romain Rolland plutôt à un spiritualiste, pour employer un langage...
Un idéaliste,
oui. Si vous préférez. Alors que Barbus et Martinet, puisque au moment de la querelle de Clarté avec Rolland, on trouvera Martinet aux côtés de Barbus.
C'est ça.
Et il est évident que pour eux, le recours... même à une violence de classe, à ce moment-là, est acceptable pour Martinet.
Oui.
Donc, cette querelle est quand même encore actuelle. Enfin, je pense qu'elle subsiste.
Oui.
Encore.
Oui, c'est le problème qui était posé, et bien entendu, celui de l'intellectuel dans sa relation, dans ses relations avec les organisations politiques.
Et alors, il y a cette pièce. Et Trotsky, enfin, qui a... en 1922, a écrit un texte qui est repris en préface à l'édition de La Nuit, voyez dans cette pièce le drame de la classe ouvrière française. Et il écrivait, c'est la phrase qui figure au dos de votre édition, « C'est de cela que nous parle le drame de Martinet dans sa langue virile qui associe la plus haute vérité de la vie, la vérité de l'histoire, à la vérité de l'art. » Alors, je cite cette phrase intentionnellement parce que au fond, là, Trotsky me semble bien poser le problème, puisqu'il dit que la vérité de l'histoire et la vérité de l'art sont unies chez Martinet. On pourrait peut-être dire la même chose de Barbus, je n'en sais rien. Mais il est évident, je pense, qu'à un moment donné, Rolland, lui, préfère la vérité de l'esprit, qui n'est quand même plus tout à fait la vérité de l'histoire.
Martinet a voulu rendre de façon poétique le drame de la classe ouvrière française, c'est-à-dire, au fond, l'échec de la Révolution au sortir de la guerre.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au sifflot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.
Adieu la ville, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre.
Cette démarche de Martinet, après en avoir fait un inconditionnel du communisme, enfin du parti communiste, va, sans heurts d'ailleurs, sans exclusion, sans scandale du tout, l'éloigner petit à petit du parti, je pense à cause du stalinisme, et nous allons le trouver à la fin de sa vie. Pendant la Seconde Guerre, il meurt pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce
pas? Oui, juste avant la fin.
Oui, c'est ça. En 44. Et avant cette Seconde Guerre mondiale, pendant la montée des périls, on voit Martinet peut-être pencher pour cette thèse qu'il ne faut pas faire la guerre parce que les puissances fascistes mourraient d'elles-mêmes, que finalement la guerre, c'est pour elles une sorte de comment dire, d'air qu'on leur donne, n'est-ce pas?
Oui, c'est-à-dire que je crois que la position de Marcel Martinet est celle d'ailleurs d'un certain nombre de pacifistes révolutionnaires de gauche à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, qui refusent la conception de la gauche officielle, disons, de l'antifascisme, qui pensent que cette idéologie antifasciste fait renaître l'idéologie de l'union sacrée, c'est-à-dire faire la guerre, encore faire la guerre, et faire la guerre pour vaincre les fascismes, c'est une idée qu'il récuse absolument.
Et là, à ce moment-là, on a quand même l'impression que devient extrêmement prémonitoire le dernier poème des temps maudits, celui dans lequel il dit que le dernier mort de la guerre, 14-18, est un annonciateur.
Des morts qui vont suivre.
Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu désespéré dans la vie de
Martinet? Là, je crois qu'on voit vraiment combien l'expérience d'août 14 a été fondamentale pour Martinet et pour tous, d'ailleurs, les militants de sa famille politique, qui est la famille du syndicalisme révolutionnaire. Ça, je crois qu'il faut bien situer Martinet dans cette tradition du mouvement ouvrier français, qui est celle du syndicalisme révolutionnaire. Et son adhésion au communisme s'explique ainsi. Et il est parti quand il lui a semblé que l'évolution de la Russie soviétique et du communisme international trahissait cet idéal internationaliste, pacifiste, de vérité auquel il avait adhéré à partir de 1917.
Il y a une fidélité.
Il y a une fidélité qui est le refus de la guerre, la guerre étant un crime masquant la lutte de classe,
voilà,
si
voilà.
Vous voulez.
De toute façon, c'est vrai, vous avez raison, il est fidèle, puisque la guerre de 14-18, ce n'est pas la guerre contre les patrons, comme il dit, c'est la guerre de l'ouvrier contre l'ouvrier, et il a l'impression, donc, que cette Seconde Guerre mondiale et que le phénomène du stalinisme, je crois qu'il était évidemment très éprouvé lorsque Staline a salué les efforts militaires.
Comme tous les pacifistes de gauche, ils ont dénoncé le tournant, enfin,
pris
à ce moment-là par Staline, et le côté, disons, patriotique du Front populaire, toute cette idéologie qu'il trouvait nationaliste du Front populaire en 1936. enfin, qui est dans la ligne effectivement de la nouvelle stratégie adoptée par l'Internationale communiste à partir de 1935 devant les menaces du fascisme allemand.
Eh bien, nous allons lui laisser le dernier mot avec ce poème que nous avons évoqué et qui est le dernier, celui qui clôt son recueil, fort heureusement réédité, « Les temps maudits ».
Entre ce premier des fils de l'homme et de la femme qui fut tué, car il y eut ce premier, inconnu, oublié, perdu, dans la monstrueuse chaîne embrassée des meurtres d'hommes, entre ce premier qui fut tué au mois d'août de l'an maudit 1914 et entre le dernier assassiné des enfants des hommes qui tomba sous le ciel vide de novembre de l'an maudit 1918, que m'importent aujourd'hui les destructions des choses, les ruines des monuments, la mort métaphorique des pierres et des écroulements d'idéologie. Vie de l'homme réel, réalité première que je tiens pantelante et chaude entre mes bras. Entre ce premier et ce dernier des assassinés, ô succession orageuse des morts, tempête inexpiable, je vous tiens tous sous mon regard de douleur qui ne se détourne d'aucun de vous. Je ne fais pas d'exception entre les morts, ni entre ceux qu'on nomme héros, ni entre ceux qui fuyaient, non plus qu'entre la couleur de leur costume ou celle de leur peau. Je n'ai besoin que de cette réalité de leur sang vivant qui a été soudainement glacé. Mais je songe à vous deux, premier d'entre les morts, dernier d'entre les morts, je songe à vous, première et dernière blessure. Je songe à vous, porte du sang, porte du crime. Ah, je songe à vous deux, et ce sont deux avenues plus sombres encore et plus terribles sortant de vous, et qui s'ouvrent et qui se creusent dans les deux successions éternelles des temps. Ô premier mort des temps maudits de cette guerre, premier des morts, mais en vérité, successeur dans la lignée du sang versé, continuateur et héritier, et toi-même aboutissement d'un long crime, et toi aussi, hélas, ô dernier des morts, toi qui n'arrêtes rien, mort entre les morts, annonciateur.
Relecture. Une émission d'Hubert Juin. Henri Barbus, Marcel Martinet. Avec la participation d'Henri Mitran, Pierre Paraf, Nicole Racine, André Wurmser. Et les voix d'Henri Barbus, Emmanuel Berle, Roland Dorgelès. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Annie Lebeg. Assistant, Jean-Claude Loiseau. Réalisation, Anne Lemaître.
L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 janvier 1976. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.